C'est donc pour cette raison que Jean plongeait les gens dans l'eau, parce que c'était un baptême de repentance. Ce n'était pas un simple petit nettoyage dont les gens avaient besoin. OK, tu vas venir, tu vas confesser un peu, ce que tu as fait de pas correct dans ta semaine. Là, j'ai pas été gentil avec mes enfants ou j'ai été en colère contre ma femme. Non, non. C'est moi, là, je suis parti sur une mauvaise direction. Et maintenant, je le reconnais et je veux changer de vie. Et tout ce que j'ai fait avant, là, il faut que ça parte avec la rivière. OK? C'est ça le sens du baptême de Jean. Là apparaît Jésus. Mais avant, juste une question. Est-ce qu'un bébé peut se repentir de quoi que ce soit? Non. Pas du tout. C'est un geste réfléchi, c'est un geste conscient, c'est une décision personnelle. Là apparaît Jésus, verset 13. Regardez dans le passage. Chapitre 3 de Matthieu, verset 13. « Alors vint Jésus de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » C'est surprenant, hein? Ben, Jean aussi était surpris. Et Jean s'y opposait parce que Jean savait qui était Jésus. Jean, c'est un simple prophète. Jésus, ce n'est pas un simple prophète. C'est Dieu fait chair. C'est le Fils éternel de Dieu. Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » J'aimerais juste vous lire dans la version sommaire parce que c'est un petit peu plus facile à comprendre. Au verset 15. Jésus dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous... Oui, ça, c'est la version que je viens de lire. Excusez. Jésus dit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Ah! Tout ce qui est juste, c'est tout ce que Dieu demande. Fait que Jésus et Jean, en entendant cette réponse-là, il accepte de baptiser Jésus. Pourquoi? Pas parce que Jésus avait des péchés à confesser ou à se détourner, mais parce que Jésus, en se faisant baptiser par Jean, approuvait son baptême, mettait son sceau d'approbation sur ce que Jean faisait et se montrait obéissant à la volonté du Père. C'est qui avait appelé Jean à baptiser? C'est Dieu le Père. Et donc, Jésus est en train de dire, « Jean, je comprends ta réticence, mais il faut que je fasse ceci parce que je montre que c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. Et j'obéis à la volonté de mon Père. Il était convenable, il fallait qu'il soit baptisé pour démontrer qu'il approuvait le baptême de repentance, que c'était ça la volonté de son Père pour tous les hommes. » Jean s'objecte, mais Jésus insiste. Le baptême que Jésus pratiquait là, après ça, là, c'est une continuité du baptême de Jean. Pas vrai? C'est la continuité. Après Jean, Jésus et ses disciples se sont mis à eux aussi baptiser. Mais dans quel contexte? Dans le contexte du baptême de Jean, qui est un baptême de quoi? De repentance. Donc, le baptême de Jésus que Jésus pratiquait après était la continuité, tirait son origine dans le baptême de Jean. Donc, c'est un baptême de repentance, OK? En premier lieu. Lorsque Pierre s'est levé au jour de la Pentecôte et a prêché l'Évangile à la grande foule, ils ont été vivement touchés et lui demandèrent à lui et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, on voit là que le baptême que Jésus enseignait, qu'il pratiquait, que ses apôtres pratiquaient, c'était d'abord et avant tout un baptême de quoi? De repentance. Repentez-vous et faites-vous baptiser. Le baptême de Jésus, la continuité du baptême de Jean. La repentance en fait partie intégrante. Jésus aurait pu se dire, ben, franchement, Père, hein, il aurait pu dire à son Père, j'ai pas de péché, moi, Père. Je suis déjà circoncis. Je fais déjà partie du peuple de Dieu. Et j'ai aucun péché. Mais non, Jésus, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et dès qu'il est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est produit? Si on retourne à notre passage, au chapitre 3. Dès que Jésus a été baptisé, verset 16, aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Donc, il était plongé sous l'eau. Il sort de l'eau. Okay? Alors, le ciel s'ouvrit sur lui, l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et en même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est lui qui fait toute ma joie. » J'ai mis en lui toute mon affection. L'approbation publique du Père en parole et par l'onction du Saint-Esprit. Ma question ce matin à toi, c'est, si Jésus n'hésitait pas de se faire baptiser, pourquoi t'hésites-tu? Si Jésus, qui n'avait même pas besoin d'être baptisé, s'est soumis à la volonté de son Père, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher, toi, à le faire? Maintenant, on va regarder, on a vu le sens littéral du terme, on a vu le contexte du baptême de Jean. On va regarder, en plus en profondeur encore, c'est quoi le sens spirituel du baptême de Jésus? Ça veut dire le baptême que pratiquaient Jésus et ses apôtres, OK? Donc, la repentance, oui. Comme on l'a dit, le baptême de Jésus tire son origine dans le baptême de Jean. Mais recèle une signification plus profonde encore. L'enseignement que Jésus donnait, c'est que celui qui faisait baptiser indiquait non seulement qu'il se repentait, mais qu'il voulait être un disciple de Jésus-Christ. Donc, il y avait clairement une notion d'engagement dans ce geste. Par exemple, dans Jean 4, on lit, « Le Seigneur Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. » Voyez-vous? Baptiser des disciples. Des disciples. Qui est-ce qu'on baptise? C'est ceux qui veulent être disciples. C'est quoi un disciple? C'est un apprenti. C'est quelqu'un qui suit le maître. C'est quelqu'un qui veut devenir comme le maître. Également, à la fin de Matthieu 28, au verset 18 et 19, lorsque Jésus donne la grande commission à ses disciples, il leur dit quoi? « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, quoi? Des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » En fait, la structure grammatique de cette phrase-là est la suivante. « Allez, faites des disciples, les baptisant et leur enseignant. » OK? Ça veut dire que tu ne peux pas faire un disciple sans le baptiser et l'enseigner. C'est en le baptisant et en l'enseignant à obéir tout ce que je vous ai prescrit que tu fais des disciples. Ça fait partie intégrante de c'est quoi un disciple. Vous me suivez? Donc, un engagement à suivre Jésus. Donc, le sens spirituel du baptême de Jésus, on l'a vu, la repentance, un engagement à le suivre, à devenir son disciple. Ça fait partie intégrante du processus de devenir un disciple. Pour devenir un disciple, il faut être baptisé. Les deux sont indissociables. On ne peut pas parler du baptême sans parler d'être un disciple et vice-versa. C'est un engagement à suivre Jésus. Personne ne peut faire ça pour toi. Pas tes parents, pas un prêtre, ni un pasteur. C'est toi. C'est toi qui dois décider de suivre Jésus. Après avoir compris que tu étais pécheur et après avoir compris qu'il est mort pour toi à la croix, par amour pour toi, pour te sauver du jugement de Dieu, et que maintenant, par amour pour lui et par reconnaissance de qui il est, tu veux le suivre. Et tu veux t'identifier publiquement avec lui. Mais troisièmement et finalement, c'est que c'est une nouvelle vie qui débute en toi, une nouvelle vie spirituelle. Le baptême signifie, ça représente, c'est un symbole d'une nouvelle vie qui vient t'habiter lorsque tu crois en Jésus-Christ. Tournez avec moi dans Romains 6. Je termine avec ça. Romains 6. L'épître de Paul aux chrétiens à Rome. Romains 6. Je vais lire dans la seconde 21. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Jésus est mort pour mes péchés, ça veut dire que je suis pardonné, je peux tout faire, je peux pécher comme je veux. Non, absolument pas, c'est ça que Paul dit. Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Comment ça, mort pour le péché? Il dit au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ, ok, baptisés, je vous l'ai dit, là, ça veut dire plongés, ok, nous tous qui avons été plongés, il ne parle pas du baptême de l'eau, là, il parle spirituellement, nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été plongés. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si tu reconnais que Jésus est mort à la croix, pas pour ses péchés, mais pour tes péchés, dans les livres de Dieu, tu es mort. Tu es mort à la croix. Jésus est mort pour toi, donc toi, tu es mort. Tu n'es pas vraiment mort, c'est Jésus qui est mort à ta place. Mais Dieu calcule que tu es mort. Dans ses livres à lui, tu es mort. Jésus a accepté de payer ta pénalité à ta place. Donc, dans les livres de Dieu, tu es mort. Maintenant, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que par, verset 4, par le fait d'être plongé en sa mort, nous avons été ensevelis, enterrés avec lui, afin que comme Christ a ressuscité pour la gloire du Père, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. En effet, si nous avons été unis à lui, voyez-vous, par une mort semblable à la sienne, nous serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Fait que si tu es mort aux yeux de Dieu à la croix avec Christ, Christ ressuscite, il calcule que maintenant, vu que tu es en Christ, tu es ressuscité aussi, tu as une nouvelle vie. Et là, l'Esprit vient de t'habiter. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu ne le reçois pas au baptême. Le baptême symbolise cette réalité spirituelle-là. Parce que tu es plongé sous l'eau comme si tu étais mort et tu sors de l'eau comme si tu ressuscitais. C'est un symbole de cette vérité spirituelle-là. Il faut l'avoir vécu, cette réalité spirituelle-là, pour pouvoir en témoigner publiquement, comme Chéri va le faire. Un enfant ne peut absolument pas faire ça. Parce qu'il faut se repentir, il faut s'engager, il faut réaliser que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et l'Esprit-Saint est venu m'habiter par la foi. Amen. Jean dit dans son évangile au chapitre 1, « Tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu, qui ne sont pas nés ni de sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un être humain, mais de Dieu. Personne ne peut te faire naître de nouveau sauf Dieu. Et quand est-ce qu'il fait naître de nouveau? Tous ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? Jésus-Christ. Comme leur sauveur personnel. C'est pas assez que Jésus ait été le sauveur de tes parents. C'est pas suffisant. Il faut que tu le reçoives. Et là, tu deviens enfant de Dieu. Donc, par le baptême, on proclame publiquement ce qui est arrivé intérieurement. Tu t'identifies avec Christ, shérif, ce matin. Sa mort à la croix, tu es mort avec lui. Ton ancienne vie est enterrée avec lui. Et maintenant, par la grâce de Dieu, tu ressuscites avec lui et tu veux vivre en nouveauté par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pour cette raison qu'on pratique le baptême par l'immersion, parce que c'est la vraie façon biblique de pratiquer le baptême. Et si on ne pratique pas de cette façon-là, on vide le baptême de tout son sens. On vide le baptême de tout son symbolisme. Ça marche? Une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Alors, on va s'arrêter là. William, est-ce qu'on a un chant ou c'est le témoignage de Shérif? C'est Robert qui va l'introduire, OK. Parfait. Je reviens à la fin pour quelques mots.